Marcel Groslot est inquiet et s'interroge sur les intentions de l'IMEL. Pour ce qui est du refus du gouvernement caquiste d'augmenter le seuil d'immigration, il ne le comprend pas non plus. Le gouvernement Legault vient d'autoriser un certain rattrapage pour l'arrivée et l'installation ici des immigrants pour qui les démarches n'ont pu être complétées en 2020 en raison de la pandémie. Cependant, maintenir le seuil aux environs de 50 000 immigrants ne pourra permettre de combler le retard démographique du Québec et encore moins répondre aux besoins de milliers de travailleurs dans l'agroalimentaire. J'ai fait un tour d'horizon avec Marcel Groslot. Je lui ai tout d'abord demandé comment il recevait la décision de l'IMEL de réduire ses achats de porc.
Très mal. Je suis très malheureux de ça. Je suis même offusqué parce que l'IMEL a pris le contrôle de la transformation porcine en faisant des acquisitions à fort prix, a éliminé la compétition, la concurrence, a limité les acheteurs auxquels les éleveurs de porc du Québec peuvent se tourner pour offrir leurs produits. Et aujourd'hui, après tous ces investissements-là, toutes ces dépenses-là, on fait face à une restructuration de cette entreprise-là qui va entraîner une diminution de la taille du secteur. Donc, oui, c'est peut-être pour des raisons de main-d'œuvre, mais c'est pas d'aujourd'hui que ces problèmes-là sont présents. Donc, moi, je comprends pas. Vraiment, je suis un peu abasourdi par cette décision-là, cette annonce-là. Après tous les investissements qu'ils ont faits, je comprends pas.
Le problème de main-d'œuvre, c'est quand même quelque chose qui est difficile à contourner actuellement. Là. Il n'y en a pas de main-d'œuvre et c'est de plus en plus difficile de faire venir des gens de l'extérieur.
Oui, mais quand ils ont acheté M. Ménard, ces problèmes-là de main-d'œuvre étaient déjà présents. Là. Peut-être pas dans l'ordre de ce qu'ils sont aujourd'hui, mais on voyait déjà que ces problèmes-là allaient s'aggraver. Il n'y a rien qui annonçait que ces problèmes-là allaient diminuer. Malgré ça, ils ont fait ces acquisitions-là. Ils ont investi dans des usines aussi pour les moderniser. Mais quand je regarde tout ce que les producteurs de porc ont investi de leur côté pour avoir une production qui se qualifie parmi les meilleures au niveau international, quand je regarde toute la recherche et le développement qu'il a fait pour rendre cette production-là socialement plus acceptable au Québec, et là, on fait face là à un seul acheteur maintenant qui décide, lui, de réduire ses achats. Regarde, je remets en question, dans le fond, la planification qu'il y avait derrière toutes ces acquisitions-là. Là.
Et comme vous le disiez, la répercussion sur l'ensemble du secteur porcin et sur le monde agricole va être importante.
Là. Mais là, est-ce que c'est un début ou qu'est-ce qui va se passer après? Parce que c'est quoi la confiance qu'on peut avoir pour un investisseur dans ce secteur-là à partir d'aujourd'hui? Je suis un producteur. Est-ce que je continue d'investir pour améliorer mes installations? Quelle décision je prends aujourd'hui par rapport à ça? Je suis un client. Est-ce que je peux continuer de faire confiance à Olimel qui réduit sa production? Donc, c'est toute cette filière-là là, qui va tomber, qui est dans une forme d'incertitude. Puis, c'est pas bon pour les affaires, c'est pas bon pour les investissements, c'est pas bon pour le développement. Et ça, c'est après les centaines et centaines de millions que l'IMEL a investi. C'est là où je me dis, au niveau de la planification, là, il y a des questions que, parce que si j'étais un sociétaire de la Fédéré, j'aurais des questions à poser sur cette gestion-là. Là. Puis les producteurs de porc du Québec ont certainement beaucoup de questions, eux aussi, par rapport à ces décisions-là. Puis là, je fais un aparté. Est-ce que c'est une décision pour mettre de la pression en vue de la négociation de la prochaine convention? Si c'est ça, c'est grave là, d'agir de cette façon-là pour mettre de la pression sur la prochaine négociation. Alors, quand j'ai appris ça cette semaine, puis ce matin, je trouve que c'est vraiment une mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle.
Si on aborde la question de l'immigration et de la présence de travailleurs étrangers temporaires. Bon, tout d'abord, les travailleurs étrangers temporaires, il y a toutes sortes de choses qui ne se règlent pas, qui continuent de mettre des entraves à la venue des travailleurs étrangers temporaires. Et ça, ça devient quelque chose de récurrent, d'une part, et puis qui aussi affecte le secteur agricole globalement.
Oui. Il y a 900 demandes de IMT, c'est des études d'impact sur le marché du travail, non traités au moment où on se parle, qui permettent par la suite aux employeurs, aux producteurs agricoles, d'obtenir les services d'un travailleur étranger. Et c'est la première étape à franchir avant toutes les autres étapes qui doivent suivre. Là. Et la semaine dernière, Service Canada n'a traité au Québec que 31 de ces EIMT-là, alors qu'il y a 900 demandes d'accumulés qui représentent 4 000 travailleurs à venir. Là. Et là, les demandes vont continuer de s'accumuler puisque juste pour le mois d'octobre, habituellement, c'est 600 demandes que les producteurs déposent et 500 quelques demandes au mois de novembre pour des travailleurs qui vont arriver au printemps prochain. Alors, on est très inquiets, puis il faut absolument que Service Canada règle les problèmes informatiques ou utilise une autre façon de traiter ces demandes-là. Nous, on a besoin d'avoir de 160 à 200 demandes traitées par semaine pour récupérer le retard et assurer la venue de ces travailleurs-là le printemps prochain.
Ce semble être des problèmes techniques là, qui causent tous ces ralentissements-là, mais est-ce que vous estimez que la volonté politique de pouvoir faire venir de façon beaucoup plus fluide les travailleurs étrangers temporaires, pensez-vous que cette volonté politique, elle est là?
Ben, j'espère qu'elle va être là à partir de maintenant pour démontrer qu'on pourrait alléger le traitement dans ce système-là. Là. Par exemple, le travailleur qui vient ici année après année, son permis pourrait être valide pour 3 à 5 ans. Il y a des travailleurs qui viennent ici depuis 25 ans, là, consécutivement. Là. Donc, pourquoi ne pas avoir une approche pour ces travailleurs-là, pour pas être obligé de traiter ces dossiers-là chaque année et recommencer à chaque année? Moi, mon passeport est bon pour 10 ans. Là. Il était bon pour 5 ans auparavant. On a décidé il n'y a pas longtemps qu'il serait bon pour les 10 prochaines années parce qu'on a allégé le traitement dans le système. On peut faire la même chose avec ces employés-là qui reviennent à chaque année, puis alléger ce traitement-là, puis alléger les coûts pour les producteurs et les employeurs, puis faciliter. Maintenant, la pénurie de main-d'œuvre, elle est chronique. Là. En agriculture, on a été les premiers à en subir les conséquences parce que malheureusement, les conditions de travail des emplois qu'on offre sont exigeantes. Donc, on est le premier secteur où les gens ont décidé, plutôt que de travailler sur nos fermes, d'aller travailler ailleurs puisqu'il y avait des emplois ailleurs. Donc, ça fait, nous, 20 ans et plus qu'on a des employés étrangers. Il est temps qu'on simplifie ce processus-là, ces procédures-là.
Puisqu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, et là, si on regarde plus particulièrement du côté de Québec, on semble pas du tout favorable à une augmentation de l'immigration permanente qui ferait venir ici des travailleurs sur une base permanente qui deviendrait des citoyens du Québec et du Canada. Donc, ça aussi, c'est un frein à un bon roulement dans le secteur agroalimentaire.
Oui, puis à court terme, là, l'absence de solution, parce que c'est à ça qu'on fait face là, au niveau manufacturier, au niveau agricole, l'absence de solution, puis la justification de ne pas intervenir parce qu'on va augmenter le salaire moyen au Québec, puis rattraper le retard par rapport à l'Ontario. Moi, je trouve ça aberrant comme attitude. Là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va assister à une contraction de l'économie au Québec qui va être plus importante que dans les autres provinces et une délocalisation des investissements. Prenons Holimel, là. Holimel, là, s'il veut continuer de transformer du porc, est-ce qu'il va continuer d'investir au Québec ou il va aller investir dans les autres provinces où on a ouvert plus l'immigration ou dans un autre pays où c'est plus facile d'avoir des employés? Donc, on va assister à une délocalisation des investissements et ça, on va handicaper l'économie du Québec pour plusieurs années à venir. Alors, à défaut d'avoir des employés ou des immigrants reçus, il faut augmenter le nombre de travailleurs étrangers temporaires qui vont venir occuper ces emplois-là le temps qu'on modernise ou qu'on robotise ou qu'on automatise les processus lorsque ce sera possible. Mais moi, je trouve très dangereux l'attitude que le gouvernement a prise actuellement de dire les emplois qui sont pas payants, les gens vont quitter, puis finalement, c'est pas si grave parce que le salaire moyen va augmenter. Mais c'est pas ça qui va se passer. On va assister à une contraction de l'économie puis une délocalisation des investissements.
Donc, vous remettez en doute là, les bienfaits ou les objectifs visés dans cette stratégie du gouvernement Legault.
Oui.
Là.
Oui, parce qu'elle affecte principalement les régions du Québec. Parce que là où il y a le déficit le plus important de main-d'œuvre, c'est dans les régions du Québec. Et on va être ceux qui seront le plus frappés par ces enjeux-là, par cette absence de main-d'œuvre. On le voit déjà. Là. Encore une fois, on va faire les frais de cette politique-là. Et j'ajouterais qu'au niveau de la langue, là, qui est un frein à l'intégration des immigrés ici au Québec, quand un immigrant arrive en région, que ses enfants vont à l'école en région, que lui vit sa vie, ses relations en région, il faut qu'il parle français pour qu'il y ait des relations, ils vont vite apprendre le français, beaucoup plus qu'un immigrant qui arrive à Montréal, où il y a déjà une communauté qui va l'accueillir et où il ne sera pas obligé d'apprendre le français pour communiquer avec sa communauté. Mais quand il arrive en région, en Abitibi, dans la Beauce, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, pensez-vous que ces gens-là vont résister à apprendre le français? Non. Ils vont l'apprendre rapidement, puis ils vont devenir rapidement des citoyens qui parlent français. Alors, ça, c'est un blocage un peu idéologique qui va nous faire extrêmement mal, là. Je suis un défenseur de la langue française. Puis il y a bien des immigrants qui sont arrivés ici dans les années 60 qui parlent aujourd'hui un très bon français dans nos régions. Donc, c'est possible d'intégrer des immigrants, de leur donner une formation pour le français, et surtout leurs enfants vont rapidement apprendre le français. Puis on va maintenir l'activité économique puis le tissu social dans nos régions, là. Donc, moi, je trouve qu'on joue à un jeu très dangereux actuellement pour l'économie du Québec.
D'accord. Si on tourne du côté d'Ottawa, Mme Marie-Claude Bibeault a été réélue. Elle est de nouveau ministre d'Agriculture et Agroalimentaire. Vous voyez ça d'un bon œil que Mme Bibeault reste à ce poste?
Oui, oui, absolument. Elle est très facile à rejoindre, très disponible, très curieuse de bien comprendre lorsqu'on lui soumet un dossier. Alors, certainement, pour l'agriculture du Canada, c'est un plus, parce que je ne dirais pas juste pour l'agriculture du Québec, là, vraiment pour l'agriculture du Canada, c'est un plus. Alors, on est très, très heureux de ça, oui.
Ce qui ne veut pas dire pour autant que vous allez lui donner une passe gratuite là, comme telle, parce que ne serait-ce que sur le dossier des travailleurs étrangers temporaires, vous allez être assez insistant, je pense.
Ben, oui, on a déjà eu des contacts ensemble sur ce dossier-là, là. Même avant qu'elle soit nominée à nouveau à titre de ministre de l'Agriculture. C'est certain, mais elle le sait en même temps, là, que c'est notre responsabilité à nous, l'UPA, de mettre la pression, de bien présenter nos demandes, de lui donner des arguments pour faire avancer ces dossiers-là au niveau du gouvernement. C'est notre responsabilité, puis on va continuer de le faire, mais dans le respect de la personne. Ça, je tiens à le préciser, là. Dans les dernières années où elle a été ministre, oui, on a mis de la pression, mais j'ai toujours, puis avec n'importe quel politicien, moi, c'est toujours dans le respect des personnes et dans la compréhension des limites de leur mandat respectif, là. Alors, je suis capable de travailler dans ces paramètres-là. Puis je pense que c'est ça qui permet, même si on a quelquefois des messages plus difficiles à passer, ça se fait dans le respect puis dans la compréhension mutuelle des rôles que chacun a à jouer.
Et un autre gros dossier que vous allez continuer à discuter avec Mme Bibeault, bien, c'est celui du renouvellement là, du cadre stratégique agricole canadien, là.
Oui, puis c'est important parce que ce sera pour les 5 prochaines années au Canada l'entente fédérale-provinciale au niveau agricole. Lorsqu'on se compare aux autres pays, parce que c'est important de le faire, c'est nos compétiteurs, on investit moins au Canada dans la transition agro-écologique. Et ça, il y a un virage, le Canada doit faire un virage, là. Avant l'élection, il avait été annoncé un programme sur 3 ans de 200 millions là, pour favoriser la transition agro-écologique. Il faut aller plus loin que ça, là. Nous, ce qu'on suggère, c'est un nouveau programme au Canada qu'on appellerait AgriVert, parce que c'est très évocateur, AgriVert. Donc, au Canada, je ne sais pas si en anglais, AgriGreen, ça passerait, là. Mais il faut des sommes supplémentaires pour, un peu à l'image de ce que l'Europe et les États-Unis font, soutenir les producteurs agricoles dans la transition agroécologique, qui est attendue et demandée par les consommateurs aussi. Parce qu'actuellement, cette transition-là, ou les investissements qu'on fait vers cette transition-là, sont pas toujours rémunérés par les marchés. Parce qu'on fait face aux compétitions des produits qui viennent de l'Amérique du Sud, d'ailleurs dans le monde, où ces règles-là sont moins importantes ou moins exigeantes. Alors, si on veut faire cette transition-là, puis être présent et continuer d'être compétitif sur les marchés, bien, ça prend un accompagnement du gouvernement pour le faire. Comme le font l'Europe et les États-Unis actuellement.
Avec les mêmes sommes qu'on avait ces dernières années ou ça prend plus d'argent?
Naturellement, ça prend des montants supplémentaires. Déjà, lorsqu'on compare les investissements actuels du Canada et des provinces pour le soutien de l'agriculture, c'est en deçà de ce que les États-Unis et l'Europe font de façon importante, là. C'est du simple au double avec les Américains, puis c'est du simple au triple avec les Européens. Alors, c'est sûr que dans un marché de plus en plus ouvert, avec des enjeux quelquefois même géopolitique, comme on l'a connu avec la Chine, il faut que le Canada soit là pour soutenir les agriculteurs dans ces périodes-là. On a toujours milité, nous, pour des programmes qui interviennent lorsque c'est nécessaire, parce qu'on ne veut pas avoir des programmes qui interviennent année après année, mais ça prend des bons programmes pour qu'ils interviennent correctement lorsque nécessaire. Et pour un programme comme AgriVert, ben lui, il intervient pour encourager les producteurs agricoles à adopter des bonnes pratiques agro-environnemental. Donc, tout le monde va en bénéficier, là. Nos produits vont être meilleurs, l'environnement va mieux se porter, puis ça va répondre aux attentes des consommateurs et de la pression sociale là, qui est très importante sur ces enjeux-là actuellement.
En terminant, M. Groslot, vous parliez tout à l'heure de respect et de compréhension. Vous allez quitter la présidence de l'UPA dans quelques semaines maintenant. Et je pense que de l'avis général dans le milieu, ce sont des qualités qu'on vous reconnaît, là, d'avoir été très respectueux de tous les partenaires, d'une part, et d'avoir toujours cherché une bonne compréhension auprès d'eux et chez eux, de façon à ce que, justement, les choses continuent de s'améliorer. Vous partez avec quel sentiment de la présidence de l'UPA?
Alors, c'est un mélange de sentiments et d'émotions parce que, en fait, je mets fin, je ne sais pas qu'est-ce qui arrivera dans les prochaines années, là, mais ça fait 30 ans que je suis impliqué dans des organisations syndicales, là, du lait d'abord, maintenant de l'UPA. J'ai côtoyé tous les producteurs de toutes les productions, de toutes les régions. J'ai constamment appris au contact des producteurs. J'ai côtoyé tous les transformateurs aussi, les gouvernements, puis encore là, avec les transformateurs et les distributeurs, ça a toujours été fascinant. Chacun a ses enjeux, puis on travaille tous pour le même but, hein, nourrir la population, malgré nos enjeux, des fois, qui nous opposent. Mais tout ça, pour moi, ça a été un enrichissement constant. Alors, je quitte, je suis content de laisser l'UPA dans les conditions actuelles. J'ai rassemblé autour de l'UPA les groupes qui, des fois, hésitaient à travailler avec nous. J'ai créé des liens durables avec ces groupes-là. Je pense aux plus petites entreprises, je pense au secteur d'agriculture biologique, je pense au secteur horticole. J'ai vraiment créé des liens avec ces groupes-là pendant ma présidence qui vont rester. Puis, je pense que j'ai réussi à démontrer l'importance là, de bien travailler ensemble dans une organisation comme l'UPA. C'est gagnant pour tout le monde. Alors, je quitte avec le sentiment du devoir accompli, mais en même temps avec un peu la nostalgie de devoir me séparer là, de tous ces gens-là avec qui j'ai travaillé pendant toutes ces années-là. Alors, mais c'était le temps pour moi, après avoir fait le point, là, personnellement, c'était le temps pour moi de franchir ce pas-là.
Et si je peux me permettre, M. Groslot, je m'inclus dans les gens du secteur pour vous dire que, justement, ces qualités-là de respect, de compréhension et d'être un interlocuteur de haute qualité, bien, ça a été très apprécié de la part du journaliste que je suis au cours de ces nombreuses années. Et je vous en remercie.
Ben, ça a été réciproque, M. Levac. Puis vous jouez un rôle extrêmement important de vulgarisateur auprès du public, puis surtout après toutes les années que vous avez consacrées au secteur agroalimentaire, vous avez une crédibilité là qui fait que lorsque vous transmettez un message, ben, c'est vrai, là, c'est la réalité. Donc ça, j'ai toujours apprécié ça. Puis je vous remercie. Je vous retourne mes compliments.
Ben c'est ça, on s'échange des fleurs, là, c'est ça.
Ben oui, c'est ça. On va arrêter ça là.
Oui, d'accord. Ben Monsieur Marcel Groslot, merci beaucoup. Et puis il vous reste encore quelques semaines assez actives, entre autres le congrès annuel. Là. Donc, on aura sûrement l'occasion de se reparler encore à quelques moments. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Ici Lionel Levac. Les prochaines semaines seront donc fort occupées pour Marcel Groslot et c'est dans un mois, à l'occasion du congrès annuel de l'UPA, qu'il quittera officiellement ses fonctions après 10 ans à la présidence de l'organisation. Au revoir.